Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne, au micro de Radio Campus 106,6 FM, une émission comme chaque semaine consacrée à l'université Campus Lille Info. Donc aujourd'hui dans cette émission, eh bien nous avons une invitée qui s'appelle Marie Echelski. Elle est venue avec ses encadrants car elle est en thèse actuellement. Marie Echelski, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez brillamment, on va dire, remporté une étape d'un concours assez prestigieux et on va parler de ça, cette thèse en 180 secondes aujourd'hui. Alors, le contexte.
Alors, en fin de compte, dans la vie d'un doctorant, on peut vous proposer le concours ma thèse en 180 secondes, auquel j'ai donc participé. Il y a plusieurs étapes à passer, les présélections, les départementales en fin de compte, que j'ai passées, les régionales, que j'ai réussi à passer aussi. Et ensuite, le concours devient national. Dans ce cas-là, il y a une présélection nationale qui se fait à Paris, puis ensuite vient enfin la grande finale nationale. Et il y a encore ensuite internationale. Tous les pays francophones peuvent participer à ce concours.
Alors, ce concours, il s'agit bien d'évoquer une thèse, le contenu d'une thèse. Avec 180 secondes, c'est limité, il faut faire des choix, il faut aussi convaincre un public. Quel était ce public ?
Donc, le public, il est composé de énormément de monde. Ça peut aller du lycéen jusque justement à l'HDR, au doctorant. Et du coup, effectivement, il faut faut bien contextualiser son sujet de thèse. Et d'ailleurs, c'est ça qui est compliqué. En 3 minutes, on doit résumer un travail qui se passe en 3 ans. Et là, on doit faire appel à des petites histoires. On doit essayer d'être un petit peu drôle quand on raconte notre thèse, hein, pour captiver un petit peu le public. Et on essaie justement de raconter à travers ces petites anecdotes ce que l'on fait en recherche pour le sujet.
Alors il y a sans doute des sujets de thèse plus complexes que d'autres, j'allais dire à vulgariser d'une certaine manière. Mmh. Le vôtre, c'était quel sujet ?
Alors, donc moi, c'est au sujet des éco-catalyseurs. Effectivement, je pense que c'est pas un sujet qui est très couramment discuté en école ou autre part. Et effectivement, pour ce genre de choses, comme je le disais, on fait appel à des petites anecdotes où on se réfère à des petites choses de la vie de tous les jours que les gens peuvent connaître et donc associer. Et ça peut justement faire connaître le sujet et faire comprendre aux gens ce que l'on fait.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet, on va écouter votre prestation. C'était en finale nationale, ça se passait où ?
Donc, c'était à Paris, à la Maison de la Radio.
Et quand ?
C'était en juin.
Voilà, donc on va écouter la prestation et on en reparlera après avec vos encadrants de cette thèse.
Les candidats vont devoir présenter leur thèse, leur sujet de recherche dans des termes simples, concis. Pour un public de non-initiés, de néophytes, on espère qu'ils vont être convaincants et qu'ils vont arriver à bien transmettre leur passion pour leur sujet de recherche, que ça sera clair et vulgarisé. Ils ont 3 minutes pour vous convaincre, pour convaincre le jury, et on va leur souhaiter bonne chance.
C'est donc officiellement parti pour la 4e finale nationale de ma thèse en 180 secondes en France. Et nous allons, avec un tonnerre d'applaudissements, ouvrir cette cérémonie. C'est d'ailleurs plus un concours qu'une cérémonie. Hein. On est plus détendu et entre nous. Et on va donc accueillir la première candidate, Marie-Charlotte. De qui s'agit-il ?
Alors, c'est une candidate qui s'appelle Marie Echelski de l'Université de Lille Hauts-de-France.
Marie Echelski. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
C'est toi qui ouvres donc cette finale nationale. Tu es la première. Comment vas-tu ? Tout va bien ?
Ça va.
Oui, tu as fait de bons exercices de respiration dans les coulisses. En tout cas, tu as vu, le public est là pour t'encourager. En tout cas, on te remercie de nous avoir gratifié d'une telle thèse que nous allons essayer de déchiffrer, Marie-Charlotte.
Moi aussi, il me faut un exercice de respiration avant. Parce que... intérêt d'un amendement phosphaté pour des sols fortement contaminés par les éléments métalliques en vue d'élaborer, à partir de biomasse végétale, des catalyseurs hétérogènes supportés, utilisables en synthèse organique. 180 secondes pour dire le titre.
Exactement.
Merci.
Marie, c'est toi qui nous donne le top départ. On te souhaite bonne chance et bravo d'être là déjà.
Les friches industrielles, ce doux environnement pollué et contaminé. En France, ce sont les industries métallurgiques qui nous ont livré ce patrimoine. Le cuivre, le zinc, le plomb. Ici, nous n'en manquons pas. Bon, on n'aurait pas été contre un peu de concentration en or ou en argent, si vous voyez ce que je veux dire. Ces industries ont permis la fabrication de voitures, d'électroménagers, mais ont tout de même laissé derrière elles un sol riche en métaux lourds. Et malheureusement, cela peut causer un certain nombre de petits soucis. Hypothyroïdie, cancer, saturnisme. Soucieux de l'environnement et de la santé, les chercheurs ont décidé de travailler sur de nouvelles techniques que l'on appelle les phytotechnologies, afin d'extraire ou d'immobiliser les polluants du sol, tels que les métaux lourds. Avec l'aide des botanistes, ils ont découvert que certaines plantes étaient à la fois capables de résister à la toxicité du sol, d'immobiliser et d'accumuler en plus ou moins grande quantité les métaux lourds. Ils ont donc décidé de mettre ces plantes sur des sols souillés. Mais vous allez me dire, très bien, on se retrouve avec des sols plus propres, mais des plantes qui ne le sont pas du tout, ce qui n'est pas vraiment top. Eh bien, le but de ma thèse est de récupérer ces plantes dont on ne sait pas toujours quoi faire, et d'en extraire les métaux, en particulier le zinc, pour en faire, attention, premier mot scientifique, des écocatalyseurs. Je vais vous expliquer. Les écocatalyseurs sont de petites molécules capables d'accélérer les réactions chimiques. Dans ma thèse, je vais utiliser une plante en particulier, réputée pour absorber en majorité le zinc. Son petit nom vernaculaire, c'est l'herbe à éléphant. Alors oui, j'avoue m'être imaginé en safari en Afrique, à l'affût des girafes et des lions, en train de récolter ma petite plante. Bon, je vous rassure, hein, cette rêverie fut de très courte durée. Je me suis très rapidement retrouvée sur les terrils du Nord-Pas-de-Calais. Pluie, froid, vent, enfin bref, une Afrique que je ne connaissais pas, mais qui sera la mienne pendant 3 ans. Le zinc que je vais récupérer de ces plantes, après les avoir calcinées à haute température, est sous forme de sel de zinc. C'est ça qui va me servir à fabriquer mes écocatalyseurs. En les mettant en présence d'une molécule numéro 1 et d'une molécule numéro 2, cela va me permettre de synthétiser de nouvelles molécules, comme dans mon cas, des anti-inflammatoires, parfois impossibles à obtenir avec du chlorure de zinc industriel. C'est quand même ironique. Hier, c'était cette pollution que l'on trouvait dans le sol qui détruisait la santé. Et aujourd'hui, c'est sans doute elle qui va la restaurer. Merci.
Voilà, vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM, www.campusille.com, et comme chaque mercredi, donc, l'émission Campus Lille Info. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie Echelski, donc, qui a candidaté pour ce concours Ma thèse en 180 secondes, qui a brillamment défendu les couleurs de la région Hauts-de-France. Donc là, elle était en finale, on vient de l'entendre, on a précisé le cadre tout à l'heure. Et j'allais tout d'abord lui demander impression en sortant de cette prestation. C'est-à-dire, vous avez été sur scène, est-ce que vous, tout de suite vous avez compris que vous aviez conquis l'auditoire?
J'avoue que bah, quand on sort de scène, on est un petit peu encore dans l'euphorie du moment, parce qu'on se retrouve quand même devant 800 personnes. Du coup, c'est assez impressionnant, surtout à la maison de la radio. Et du coup, on est très euphorique et puis on suit avec beaucoup d'attention justement les candidats suivants. Parce que comme j'étais la première, du coup, ça a été aussi un soulagement d'être passée et de pouvoir écouter les autres passer. C'était très agréable.
Moins de stress peut-être en étant première.
Ouais, beaucoup moins. Le pic est monté d'un coup et puis est redescendu et la soirée s'est très bien passée.
En même temps, pour nous, c'est plus facile encore de faire la promo avec le contexte, là.
Oui.
Donc voilà, heureuse de la prestation ?
Bah oui, j'étais très contente. Je pensais pas aller jusque-là. Mmh. Donc du coup, c'était que du bonus. Et justement, de rencontrer aussi les autres candidats, c'était très enrichissant parce qu'on avait des sujets de thèse très différents. Et de vivre cette expérience, c'est quelque chose. C'est vraiment très particulier.
Alors, la thèse est sans doute très complexe, mais à l'entendre comme ça, j'ai noté quelques petits mots comme ça qui donnent quand même, qui évoquent bien l'intérêt de cette recherche. Je ne sais pas, hein, je vais en donner quelques-uns. On parle dans ce documentaire sonore maintenant, pour moi, document sonore, de métaux lourds qu'il faut essayer, sinon d'enlever de cette surface, ou même du sous-sol de notre région, peut-être en utiliser des éléments intéressants pour notamment la médecine, soigner mm-hmm. avec, j'ai entendu parler de sel de zinc et notamment mm-hmm. d'anti-inflammatoires qu'on produit difficilement en synthèse, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon, là vous avez un matériau de départ qui est peut-être plus facile que d'autres formes de zinc.
On va dire que c'est un matériel assez inattendu de récolter en fin de compte, en gros, hein, de la pollution pour au final bénéficier de peut-être nouvelles molécules thérapeutiques.
Voilà, donc pour moi c'est un sujet porteur d'avenir, puisque déjà il y a cette pollution qui existe, dont on ne sait trop que faire, enfin on se penche là-dessus mais on n'a pas encore toutes les solutions. Est-ce que déjà sur ce point-là vous apportez des solutions ou bien c'est pas le contexte ?
On essaie d'apporter des solutions plutôt en stabilisant les éléments du sol qui posent problème, mais c'est pas le but... on va dire, final du sujet de thèse.
Voilà, donc le but, c'est plutôt d'utiliser la spécificité des milieux pour en tirer profit dans de nouvelles molécules ou dans des choses qui sont transformées pour être utiles, notamment en médecine.
Tout à fait.
Voilà. Donc, vous avez autour de vous d'éminents encadrants que
oui.
vous allez peut-être nous présenter.
Oui. Donc, je vais commencer par Brice Louvel, mon co-encadrant. Donc, il m'aide beaucoup sur la partie sol.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour à tous. Moi, je m'intéresse aux indicateurs biologiques de la qualité du sol. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est différentes techniques qui permettent de voir l'invisible. Les micro-organismes dans les sols, il faut voir dans un gramme de sol, il y a à peu près 100 000 bactéries en individu réparties en 1000, 10 000 espèces. Il y a énormément de champignons, il y a autour de 10 000 individus de champignons. Ces champignons, c'est des champignons symbiotiques qui vivent en symbiose avec la plante ou des champignons qui dégradent le bois, par exemple. Et tout ça, en fait, donc dans les sols, il y a une grosse diversité. Et le job, c'est de savoir voilà, comment ils peuvent être impactés par la pollution, comment ils peuvent être impactés par différents amendements. Et voilà. Au niveau régional, on est plusieurs à travailler sur les organismes du sol dans la région.
Alors, c'est vrai qu'au départ, on imagine que cette pollution, elle est vraiment dramatique. Enfin, pour certains, on a cité des maladies quand même graves liées à cette pollution. Alors, j'ai entendu hyperthyroïdie. C'est vrai que c'est fort développé en région, hein, des cancers, le saturnisme. Est-ce qu'on peut quand même imaginer de ces milieux très particuliers pollués des ressources nouvelles pour soigner, par exemple ?
Tout à fait, c'est ce qui s'est vraiment développé ces 10 dernières années, c'est de se dire, on peut valoriser une friche. La pollution, c'est un état de fait, voilà, on ne peut pas la changer, parce que dépolluer un sol, c'est en une cinquantaine d'euros la tonne, une tonne de sol, c'est un mètre sur un mètre sur un mètre. Et quand on a donc des territoires très grands, de plusieurs terrains de foot, pour parler vulgairement, bah, qui met les sous ? Qui met les sous ? Donc de ce cas-là, dans ce cas-là, on parle plutôt de gestion. Il y a une pollution, on sait qu'elle est là. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de nuisance ? Et comment faire en sorte qu'on puisse en tirer un bénéfice ?
Alors, quand vous dites la pollution, on sait qu'elle est là. Qui sait qu'elle est là ?
Tout le monde sait. Grâce à Google, il n'y a plus de délit d'ignorance. On tape, quelle que soit sa commune, il y a des bases de données, comme la base Bassol ou Basias. On tape le nom de sa commune et il y a un listing.
Donc avant de se promener dans les bois, promenons-nous dans les bois, faites attention où vous mettez vos pas.
Ah, il y a les chaussures. On ne consomme pas du sol comme on consomme de l'eau ou de l'air. Le sol, en fait, c'est pour ça aussi, c'est un petit peu le parent pauvre par rapport à l'air ou à l'eau. C'est qu'on ne le consomme pas directement. Or, le sol remplit des fonctions. Il remplit des fonctions d'épuration, il remplit des fonctions par rapport à la fixation de l'azote. Voilà, la plus grosse diversité se trouve dans les sols.
Alors évidemment, un problème qu'on n'a pas encore mentionné, mais je pense que vous pouvez aussi en parler, c'est la pollution des nappes phréatiques, par exemple.
Oui, bien sûr, bien sûr. Là encore, on est dans la gestion. C'est moins mon domaine, et on est dans... C'est de la gestion, c'est de la gestion.
Est-ce que ça, on le voit aussi sur les cartes Google ou autres, les problèmes liés à l'infiltration par les sols qui sont détériorés, on va dire, où se répandent en fait les nappes phréatiques, jusqu'où ça va, et qui les utilise, les exploite, voire même ne les utilise pas, justement parce qu'elles sont complètement inexploitables.
J'ai pas la réponse. Le BRGM en fait, donc c'est national, hein, c'est un organisme national. Le BRGM suit pas mal de, bon, c'est dans ses missions. Après, selon les territoires, il y a différentes entreprises qui suivent ça. Quoi qu'il en soit, il y a des normes. Et globalement, il faut que l'eau du robinet, au final, soit à la norme.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a, retrouvé dans l'eau du bassin minier, puisque là, on parle du bassin minier, aussi des contaminations liées encore à des obus de la guerre 14-18. C'est pour dire qu'avant, on n'imaginait pas chercher ça dans la qualité de l'eau. Puis après, on s'est dit, tiens, il y a ça dedans aussi. Et là, depuis, on commence à s'interroger sur est-ce qu'on peut la boire ou pas. Et maintenant, on a de nouveaux indicateurs d'une pollution qu'on n'avait pas vraiment estimée au préalable. Donc voilà, on découvre à chaque fois des polluants, parce que quand on fait des recherches sur la qualité de l'eau, au départ, on cherche des choses bien précises, et que ça évolue aussi au fil des besoins.
Peut-être ? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut déjà dire en région, c'est que la quantité d'eau est généralement peu limitée. Voilà, il plaît pas mal malgré tout. Ce qu'il faut voir aussi, c'est donc que le sol a une fonction épuratrice. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va chercher l'eau ? On va chercher l'eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, et cette eau, en fait, ne passe pas qu'à travers de la craie. La craie est fracturée, ça passerait direct, on dit à peu près un mètre par an. Dans la région, il y a des poches d'argile qui peuvent filtrer cette eau. Nous, par rapport à la thèse de Marie, on s'occupe en fait du problème en amont, et c'est vraiment par rapport à l'épiderme de la terre qu'est le sol. On s'intéresse pour l'instant, voilà, dans le cadre de la thèse de Marie, on sait qu'il y a des métaux dans le sol. Comment valoriser ces métaux ? Comment en faire un atout ?
Alors, j'ai vu dans la région des zones qui sont carrément bâchées pour pas qu'on y accède, où on met des trucs bizarres dessus pour masquer la dangerosité en fait, des sols qui sont contaminés depuis 30 ans, même avant. Hein. On ne sait pas toujours exactement ce qui s'y passe.
Ouais, tout à fait. La pollution, il faut bien voir la pollution. Il y a trois entités. La source de pollution en elle-même. Est-ce qu'on peut la retirer ? Est-ce qu'on peut la détruire ? Si c'est des métaux, on ne peut pas détruire les métaux. C'est dans la classification des éléments, ça reste comme ça. Si c'est des contaminants organiques, comme des hydrocarbures, ça peut se détruire. Des micro-organismes peuvent dégrader ces polluants. Parce qu'ils sont organiques, qui sont composés de carbone. Ça, c'est la source. Deuxièmement, il y a le transport. Qu'est-ce qui bouge cette pollution ? Qu'est-ce qui peut être le vecteur de cette pollution ? Il peut y avoir le vent, il peut y avoir effectivement l'eau. Est-ce qu'on peut bloquer ce transport ? Ça peut par exemple être de mettre de rabaisser la nappe. Ça, c'est possible selon les endroits. Par exemple, autour de Metal Europe, on en parlait dans le cadre de la thèse de Marie, la nappe est rabaissée au droit du site de Metal Europe, du site historique. Donc comme ça, il n'y a pas de contact et il n'y a pas de transfert de cette pollution. Troisièmement, c'est les cibles. Qui sont les cibles ? Est-ce que les cibles sont des riverains ? Est-ce que les cibles sont des plantes ? Est-ce que les cibles sont des milieux vivants ? Et là, en fait, la politique de gestion des sols pollués en France est par rapport à l'usage. Selon l'usage, selon le risque, donc le risque de pollution, par rapport aux cibles, on donne des usages différents.
Alors, vous disiez tout à l'heure que la région est une région globalement humide. Hein. Malgré tout, on constate des périodes de sécheresse et là, on est dans une période un petit peu intermédiaire. C'est-à-dire le préfet nous alerte en disant on traverse une période de sécheresse. Est-ce que la concentration de l'eau dans les nappes, en période de sécheresse, si ça continue, hein, ça crée aussi une concentration des produits nocifs?
Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a plein de nappes. Des nappes, il y en a plein. On peut percer le sol jusqu'à 100 mètres de profondeur, on va tomber sur plusieurs nappes. Les nappes, nous, qui nous intéressent, c'est les nappes où sont prélevées l'eau de consommation. Voilà. Alors, je vois bien la question par rapport à la concentration. Les polluants, malheureusement, sont adsorbés à la surface du sol. Je dis bien adsorbés, c'est-à-dire qu'ils sont liés souvent au dans le sol, dans les constituants du sol. Ils sont très peu sous forme dissoute ou sous forme soluble. Dans le cas de la thèse de Marie, on essaie de mettre des amendements dans le sol pour favoriser la désorption du zinc qui nous intéresse, et non pas le cadmium ou le plomb, par exemple.
Voilà. Deuxième invité, Marie, que vous allez nous présenter.
Oui, donc cette fois, c'est mon directeur de thèse, Christophe Waterloo.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Waterloo, donc enseignant-chercheur au sein du LGCGEISA, et je suis chimiste de formation.
Voilà, donc on a bien compris que le travail de Marie, il y a de la chimie, il y a aussi, tout ce qui est autour du vivant. Est-ce que le vivant, on peut le considérer aussi intégré à la chimie?
Ah, tout à fait. Le problème de l'écologie et de la chimie est maintenant en symbiose parfaite, puisque effectivement, au sein de la thèse, il y a, comme vous le soulignez, une partie importante de chimie en lien avec les amendements qui sont mis dans les sols et la compréhension des mécanismes qui vont permettre d'immobiliser les éléments et ceux qui vont permettre aussi de favoriser le transfert de ces éléments vers une biomasse végétale. Il y a bien sûr le vivant qui est le végétal et j'allais dire là c'est plutôt la spécialité de Marie. Et puis en dernier il y a effectivement la chimie dans toute sa splendeur qui est cette chimie organique qui va pouvoir nous permettre de synthétiser comme Marie le soulignait dans l'exposé par exemple des anti-inflammatoires.
Alors, la recherche spécifique de Marie, bon, je ne reviens pas sur le dossier puisqu'on l'a largement présenté. Est-ce qu'elle est au départ un souhait de votre laboratoire ou est-ce que c'est un souhait de Marie?
Alors, c'est les deux en même temps. Ce sujet se situe à l'interface de ce que j'ai pu faire quand j'ai fait ma thèse et de l'expérience acquise au sein du laboratoire dans lequel je travaille et d'une réflexion qui est finalement qui est née pour construire les perspectives de mon habilitation à diriger les recherches. Et à partir de ça, le tout a fait que ce sujet est né. Et très rapidement, après avoir déposé le sujet de thèse, Marie s'est empressée, j'allais dire, de me contacter et de postuler avec beaucoup d'insistance sur ce sujet.
Alors, si on prend un labo de 100 personnes, je ne sais pas où le vôtre, mais combien y a-t-il par rapport à ces 100 chercheurs, ou peut-être enseignants-chercheurs aussi d'ailleurs, combien y a-t-il de personnes en thèse, des thésards, comme on dit, banalement?
Oh, alors, pour faire plus petit, nous sommes en une quinzaine au sein de l'équipe et nous avons trois thèses à l'heure actuelle et une qui vient d'être soutenue. Et a priori, au laboratoire LGCGE, on a une centaine de thèses pour, je pense, 350 permanents. C'est bien ça?
Oui. Donc chaque thèse pour vous, c'est évidemment important. Chaque thèse vous amène une ouverture vers le développement de votre projet.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est le développement d'un projet qui, au point de départ, est plus ou moins propre et qui s'intègre dans le thème général de l'équipe dans laquelle on travaille, qui implique aussi des collègues. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà du travail de recherche, c'est aussi tout un travail de pédagogie, car la thèse ne se limite pas à donner des manipulations, à dire tu vas écrire, tu vas valoriser scientifiquement tes résultats, mais d'apprendre aux doctorants du comment on manipule, du comment on valorise. Mais c'est un vrai travail de concertation où à la fois le directeur ou le co-encadrant propose des choses, mais on attend du doctorant qu'il nous propose également des choses. Donc c'est vraiment un travail qui se fait en synergie.
Est-ce que le doctorant est en capacité parfois d'inventer quelque chose qui serait du domaine possible, disons, de breveter?
Je pense qu'avec persévérance, la lecture dans la bibliographie, le doctorant est capable de proposer des choses. Maintenant, de là à imaginer de breveter, je pense qu'encore une fois que c'est un travail entre le doctorant et l'encadrant. Le doctorant ne peut pas imaginer des choses qu'il ne connaît pas nécessairement. Donc l'idée de ce travail en synergie, c'est que le directeur, qui connaît normalement un peu plus de choses, mette sur des pistes de façon à ce que le doctorant, par rapport à ces pistes-là, réfléchisse, essaie au travers de la biblio de trouver un début de réponse. Et là, effectivement, quelque chose peut-être de brevetable peut émaner de toutes ces réflexions.
Donc on va dire que quelqu'un qui est en thèse dans vos labos, c'est une forme de collaboration ?
Oh, vous avez tout à fait raison. Moi, je vois le travail entre le co-encadrant, le directeur de thèse et le doctorant ou la doctorante collaborer.
Alors, quand vous voyez une thèse qui avance en termes de recherche aussi, hein, de concrétisation, on va dire, puisqu'au départ, ce qu'on a entendu, c'est la partie qui émerge, mais au-delà de ça, il y a une recherche construite avec des progrès. Est-ce que ces progrès, vous les suivez au coup par coup, ou est-ce que vous en avez déjà compris la globalité de où va Marie et ce qu'on peut en faire ?
Le premier point très, très positif sur lequel j'étais très très fier, c'est déjà l'aboutissement de cette thèse en 180 secondes et du résultat qui a été présenté. C'est clair que d'un point de vue scientifique, on voit l'avancement, ne serait-ce par exemple dans le cadre de la thèse de Marie, au travers déjà d'une publication qui est une review, c'est-à-dire un résumé de tout ce qui peut être fait en rapport avec le sujet qui a été soumis pour publication. C'est aussi deux articles qui sont en train d'être rédigés pour des soumissions aux alentours de janvier-février. Et je pense qu'on en est seulement à une petite année et demie de thèse. On aura d'ici février trois articles de soumis et on a déjà deux communications orales.
Alors, Monsieur Louvel, par rapport à justement ces publications, est-ce que vous épaulez aussi Marie dans ce travail ?
Moi, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une thèse ? Ou qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire de recherche ? C'est avant tout une équipe. Et dans cette équipe, on a chacun ses spécificités, on apporte son bagage. La réponse est oui, Quentin. Et c'est surtout, tout dépend à quelle question on veut répondre. Si Marie a vraiment une question de chimie, bien évidemment, c'est auprès de Christophe, prof en chimie, auquel elle s'adresse. On est vraiment en fait une équipe au service du sujet. Et on est là, bien évidemment, on fait ce travail aussi et surtout parce qu'on aime transmettre. On aime transmettre, on aime partager en plus. Donc chacun vient avec son histoire. Marie vient de la fac de Metz, elle a appris pas mal de choses là-bas. Donc on échange, c'est stimulant.
Mmh. Marie, là on est presque à un an et demi de la fin de la thèse. Alors, je ne vais pas dire que vous allez regretter d'être ici, mais après vous voulez en sortir. Et pour faire quoi alors ?
L'objectif après la thèse, ce serait d'intégrer un post-doctorat, si possible à l'étranger, dans le domaine du sol, du végétal, où je puisse apporter des choses au potentiel nouveau laboratoire et surtout apprendre de nouvelles techniques.
Voilà, donc là vous êtes dans un environnement qui vous porte, qui vous permet d'aller assez loin. Est-ce que pour vous, vous avez suffisamment de travail en ce moment? Vous sentez bien, je veux dire, par rapport à ce que vous voulez faire, vous êtes à fond, quoi, non?
Ah bah oui, bah, entre doctorants, on a coutume de dire de toute façon que la journée d'un doctorant, c'est 24 heures. Donc on a bien, bien assez de choses à faire. Et ce qui est très important, c'est que c'est diversifié. Donc on passe du laboratoire au CER, au terrain, donc dehors, et puis aussi un petit peu devant l'ordinateur. Donc on a une palette de possibles qui est vraiment géniale.
Alors qu'est-ce qui va vraiment changer une fois que vous sortez de ce petit cocon quand même?
Peut-être qu'on sera plus livré à nous-mêmes, parce qu'en étant doctorant, on est quand même suivi de près. Après, en post-doctorat, je pense que c'est l'indépendance totale. Et donc, on est lâché dans l'océan, comme ça, tout seul. Et on va devoir se débrouiller.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De quoi auriez-vous besoin? Peut-être qu'un auditeur aurait une réponse.
Comme ça, j'ai pas d'idée.
Bon, c'est bientôt Noël, vous réfléchissez. Puis...
Voilà, c'est ça.
D'accord. Merci beaucoup, Marie. Merci aussi, bien sûr, à Christophe Waterloo et à Brice Louvel. Très bonne continuation dans vos laboratoires et donc cette collaboration avec Marie Echelski. Bonne journée à tous.
Bonne journée.